about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. La prise de son est assurée ce soir par Pierrick Monsigné, la réalisation signée Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Elisabeth Philippe et Philippe Chevillier pour parler ensemble de L'Arpenteur des Ténèbres d'Anthony Casas Ross au Castor Astral, La Femme qui ressuscite de Nadia Oswald au Nouvel Attila et Lettre à un jeune auteur de Colm McCann chez Bellefond. Boris Pinault est là, qui surveille d'ores et déjà les films Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires sur notre programme ou peut-être transmettre vos questions. Et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Radial Grammar d'artiste suisse Batia Sutter. C'est jusqu'au 26 août au Bal à Paris. Anthony Casas Ross avait impressionné le monde littéraire en publiant, voici tout juste 10 ans, son premier roman chez Gallimard, intitulé Le théorème d'Almodovar. Ce natif de la Catalogne française a continué à publier régulièrement, peut-être quand même avec moins de succès public et critique, plus discrètement. Le voici aujourd'hui revenu au roman publié en Castor Astral, L'Arpenteur des Ténèbres. On va y suivre les aventures et pérégrinations d'un jeune écrivain, prénommé comme l'auteur Anthony, répondant, on va le comprendre très vite, à la commande d'une fondation qui souhaite un texte décrivant le monde, je cite, « d'après un pur critère esthétique ». À New York, Anthony va croiser la route d'Anka, une artiste qui tague les villes d'images plus qu'érotiques à la peinture rouge. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant et laisser un peu de suspens. L'ardoise ne me quittait pas. J'écrivais avec un fin morceau de craie en négatif, blanc sur noir. Chaque jour, je remplissais l'obscurité de ma petite écriture et, d'un coup d'éponge, avant de m'endormir, j'effaçais tout. Je revenais au noir, la mémoire vide, le corps ensommeillé. Ma chambre fait 3,50 m sur 4,20 m sous les combles. J'y vis depuis un an. J'ai abandonné mes études de cinéma après la première année et, depuis, je pense à la meilleure manière d'en finir. Plusieurs idées me sont venues. Revoir les 25 plus grands films de l'histoire du cinéma et faire coïncider ma fin avec le mot « fin ». Écouter toutes les cantates de Bach, puis partir avec mon sac, choisir une direction, j'avais acheté une boussole, et marcher à la rencontre de la mort. Rester simplement couché sur mon lit. Acheter de la digitaline et un somnifère, combiner les deux pour que le cœur s'arrête, m'asseoir dans le jardin public en cette fin d'automne et attendre que les feuilles tombent pour m'ensevelir. J'avais finalement choisi cette dernière option et, comme j'étais sorti sous une pluie fine pour me procurer la digitaline naturelle dans un magasin bio, je suis passé devant une plaque de cuivre en bas d'un immeuble bourgeois qui, sous le nom d'un psychanalyste, portait cette mention étrange « Cabinet des investigations esthétiques ». Que va-t-il découvrir, Lucille Como ? C'est la toute première page de ce livre d'Anthony Casas Ross que je viens de lire.
Alors, beaucoup de choses. Je serais bien en mal de le résumer. J'ai bien vu que sous vos dehors de suspens, vous n'osiez pas rentrer trop dans le résumé de l'action. C'est vrai que c'est pas facile.
Vous pouvez y aller sur les terroristes, sur...
Ah, il y a plein de choses, en tout cas. Ça, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le début. J'aime vraiment beaucoup ce premier chapitre qui m'a vraiment beaucoup donné envie de lire le livre, qui lance le personnage de manière totalement arbitraire et très drôle dans le récit. C'est vraiment un récit de quête, on peut résumer comme ça, hein, un récit de quête artistique, littéraire, qui, qui est au moins double, sinon triple, voire même en fait quadruple, parce qu'il y a un nombre de personnages qui sont tous finalement des écrivains ou au moins des artistes. Vous avez parlé d'Anthony qui parle à la première personne, parfois il est plutôt nommé à la troisième. Anka, donc, qui tatoue en fait son sexe littéralement à l'encre rouge en utilisant des pitons, en escaladant des murs dans New York. Et puis un personnage assez mystérieux qui le reste d'ailleurs, qui est une sorte d'ange gardien qui s'appelle le caméléon. Et enfin, Thomas Emin, qui est le grand écrivain que cherchent évidemment tous ces artistes en puissance et dont le roman recopie, on l'apprend assez vite, des passages de sa propre œuvre à lui. Donc quelques indices nous laissent à penser que tout ça se situe à peu près dans notre présent à nous. Hein, il y a des téléphones portables, des ordinateurs, le New York qui est décrit au départ est à peu près le New York d'aujourd'hui. Mais en toile de fond, il y a ces événements terroristes, entre guillemets, mais qui en fait prennent une sorte de dimension de psychose collective complètement fantastique et fantasmée, qui se passe et qui sont donc inscrits dans le livre avec une police différente. Moi, je pense que ce livre-là, il a énormément d'ambition. C'est peut-être aussi le problème. Il se situe, à mon avis, au croisement de deux veines qui sont d'ailleurs assez explicitement citées, que sont le roman américain des années 60, type Kerouac, donc avec le road movie, le côté totalement halluciné de la forme, l'explosion des cadres narratifs. Et puis, et c'est pas sans lien, le roman sud-américain. On pense à Bolaño tout le temps, puisque la quête du grand écrivain, c'est évidemment à ça que ça renvoie. Et même dans l'exubérance, dans la folie du langage, il y a vraiment quelque chose de ça. C'est un roman très riche. C'est drôle parce qu'en réécoutant le début, pourtant je l'ai lu assez rapidement, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai lu ce début parce qu'il se passe tellement de choses, il y a tellement de mots, enfin que du coup c'est vraiment extrêmement foisonnant, presque jusqu'au trop-plein. En plus, il y a beaucoup de scènes à la fois de sexe, de danse, de nourriture. De massacre. En fait, tout est lié à la question de la jouissance et tout est au final jouissance littéraire, que ce soit la jouissance des corps, de la nature, de la violence. Enfin, on est vraiment dans ce type-là. Moi, je pense que c'est un roman, si on ne s'abandonne pas totalement, c'est assez fatigant. Et moi, qui ai des mécanismes de contrôle extrêmement élaborés, j'avoue que je ne me suis pas tout à fait abandonnée. Et du coup, j'ai eu du mal à lâcher moi-même la quête de qui est qui. Ah oui, mais alors on change de pronom. Est-ce que ça renvoie à Anthony? Est-ce que c'est encore un autre écrivain? Et puis dans le temps, comment ça se situe? Bon, c'est clairement ce roman une boîte à multiples étages. Enfin, il y a un nombre de reliefs inimaginables, que ce soit géographique, temporel, etc. Je pense qu'il faut totalement lâcher l'idée de s'y repérer. Et moi, j'avoue, j'ai du mal à lâcher ça. Et le problème, c'est qu'en fait, le doute sur la cohérence de la fiction, au bout d'un moment, ça revient à douter de la qualité, de la valeur littéraire. Et bon, c'est voilà. Je vais finir sur cette note un peu négative, bien que vraiment, je pense que je me rappellerai longtemps de ce livre.
Elisabeth Philippe, premier regard.
Que dire après cette présentation absolument limpide? Et je trouve que c'est une prouesse de pouvoir parler de ce livre en des termes aussi clairs. Moi, je suis un peu... Lucille a évoqué ce personnage du caméléon. J'avoue que mes impressions sont un peu à l'image de ce caméléon, à savoir très changeantes concernant ce livre. Et des passages qui m'ont littéralement époustouflée. J'admire la liberté formelle dont fait preuve Casas Ross, cette inventivité narrative, ces côtés très baroques, luxuriants, cette convocation de toutes les formes artistiques également. La musique est très présente, que ce soit à travers Bach, Scriabine, la mention du jazz, la peinture aussi, l'architecture, la villa Malaparte est un motif très très récurrent, même si dans ce livre, moi je pensais davantage à Pierrot le Fou qu'au mépris, puisque la villa Malaparte c'est la villa qui figure dans le film Le Mépris. Je pensais aussi à Montaigne, parce que l'un des livres du personnage de Thomas Emin, cet écrivain sur les traces duquel sont partis Anthony et Anka, l'un de ses livres s'intitule Cannibale. Et je trouvais qu'effectivement, on retrouve en plus dans le livre de Casas Ross ce côté déréglé, décousu, hardi, qui était cette façon que Montaigne décrit les essais. Mais Montaigne dit aussi sujet des essais, que le désordre apparent cache un ordre profond. Et cet ordre profond, moi, j'ai pas vraiment réussi à le trouver. C'est-à-dire que il y a un étourdissement, un vertige créé par ces constellations narratives avec des images extrêmement fortes et frappantes. Mais il y a eu un effet de saturation, de trop-plein face à un exercice pyrotechnique qui finalement me semble un peu vain. Et il est beaucoup question de l'esthétique du chaos, beaucoup question aussi des enjeux de la littérature finalement. Et il apporte pas du tout de réponse révolutionnaire à ces questions-là. Déjà en convoquant des artistes, Bolaño, Cortázar, Borges, enfin... On n'est pas non plus dans la très très grande modernité, même si ce sont des artistes admirables, hein, ça retire rien à ça. Et puis, simplement, pour qu'au bout du compte, on nous réponde, bah oui, la fiction est plus réelle que la réalité, etc., qu'on en arrive à ce genre de banalité-là, je vois pas bien le but de ce grand voyage, ce qui certes recèle des visions assez merveilleuses ou drôles, cette scène de ce suicide à la cette tentative de suicide à la digitaline, j'avoue que c'est une très bonne trouvaille. Enfin, j'avais jamais entendu parler de ce genre de choses personnellement. Et puis il y a beaucoup de scènes effectivement de sexe, de transe, de danse. Et à un moment, il y a le personnage du, puisque sans vouloir divulgâcher, un des personnages dit il n'y a plus d'adolescence dans la littérature. Et moi, je trouve que c'est un livre qui a quelque chose de très adolescent.
Bon, Philippe Chevillier, premier regard sur
Premier regard, il est un peu, oui, un mix de ce que vous avez dit toutes les deux, parce que bon, il y a cette impression d'avoir un peu le livre de tous les livres, d'abord des siens et puis des autres, une profusion. Moi, j'avoue que je suis pas très amateur de d'une littérature comme ça très baroque et très et qui part comme ça un petit peu en vrille avec ce côté fantastique. Le fait, je trouve que parfois quand on se donne des limites, on a l'imagination est plus forte et plus fleurie. Et parfois, j'ai l'impression que justement ces images baroques, que ça soit celle du caméléon, des scènes de sexe, il y a des choses qu'on a déjà vues, même dans les scènes d'apocalypse aussi, enfin de chaos. Donc j'étais un peu gêné par ça. Et puis il y a évidemment ce poids des références. Parfois les références au jazz, ça pèse. Les références aux auteurs aussi, à la Villa de Malaparte. Bon, vous en avez parlé. C'est vrai que c'est un côté un peu pudding. Et puis justement, quand on lit comme ça, il y a des moments, moi, au milieu du livre, parce que j'ai beaucoup aimé le début aussi, au milieu du livre, j'ai eu vraiment le sentiment que c'était ce road movie tournait un peu en rond et que ça devenait uniforme. Et néanmoins, parce que justement, moi, je suis parti plutôt aussi du négatif, mais finalement, pour arriver vers des choses plus positives, c'est vrai qu'il a réussi à développer une certaine esthétique du chaos, à force de confondre les images, les corps, les époques, et que comme ça, à l'énergie, on arrive à être un peu tourneboulé. On finit par être emporté par le flot. C'est d'abord des petites vaguelettes et puis après ça commence vraiment à prendre. Et surtout, moi j'ai trouvé qu'il y avait des fulgurances dans certaines histoires, notamment puisque les histoires se croisent. Notamment l'histoire il y a une histoire de lac avec des poissons au Mexique. C'est une très belle histoire qui est à la fois fantastique, baroque et en même temps qui raconte vraiment quelque chose, je trouve. Mais c'est pas toujours le cas. Et il y a une générosité d'écriture, je pense, et puis de souci du lecteur, parce qu'il ne le perd pas complètement. Enfin, on n'est pas complètement perdu. Une fois qu'on a effectivement essayé de se dire non, on va pas savoir si Anka est là et si Anthony est là, si parfois on a l'impression qu'ils sont ensemble, qu'ils ne le sont plus. Bon, et puis au fond, la chose que je trouve le plus réussie, justement, c'est ça, c'est cette mise en abîme de fiction successive, où on ne sait plus très bien si le texte qu'on lit est celui qui a été écrit par l'écrivain, écrit par les deux, écrit par l'écrivain qu'il recherche, le fameux Thomas. Donc ça, c'est assez joli. Peut-être une dernière réserve. Mais alors vraiment, ce qui m'a gêné le plus, je trouve que les scènes de... Je crois pas très beaucoup à cette histoire d'amour entre les deux. Il y a quelque chose qui je trouve un peu simplet, gentillet entre deux, entre Anka et Anthony. Et puis les scènes de sexe, je les trouve un petit peu téléphonées, si je puis dire. C'est pas très... Il y a du jasmin, il y a des... Bon, ça manque un peu de tranchant, si je puis dire. Si on peut parler de... tranchant dans des scènes de sexe. Enfin, bref,
je vous laisse finir votre phrase tout seul. C'est vous qui êtes parti là-dessus après tout. Pour revenir au premier chapitre dont vous parlez, Lucille Comeau, moi c'est le problème que j'ai eu avec ce livre, que je trouve quand même assez brillant dans sa forme, c'est que c'est une promesse non tenue. En fait, moi j'attendais qu'Anthony remplisse son contrat, hein, parce qu'après tout, je l'ai dit, il doit décrire l'état du monde selon des purs critères esthétiques, et moi c'est ce que j'avais quand même envie de lire, ce qui n'est pas en fait le contenu de ce livre-là. Enfin, il l'esquive absolument de toutes les façons, et bon, passer cette... il a bien fallu que je me rende compte que je n'aurais pas ce que j'attendais, et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie du chaos, justement, dans cette autre police de caractère, parce que de temps en temps, d'abord il y a une écriture qui est très différente et qui moi me touche plus, parce que je pense que le jasmin et le baroque m'ont un peu fatigué, même si je peux en être amateur chez d'autres écrivains. Je trouve que là, ça, effectivement, pour moi aussi, ça a du mal à fonctionner. Mais juste une notation comme ça dans une de ces scènes de chaos. Bourse de New York, variation des cours de la semaine, toutes les valeurs sont à zéro. Des fulgurances comme ça, j'avais envie qu'il s'engouffre davantage dedans et qu'il nous parle de cet état du monde qui, en fait, voilà, vient comme une scansion dans le récit, qui a presque une fonction utilitaire par rapport à l'histoire d'amour. Et donc, du coup, je suis un peu frustré sur ces deux fils-là, de Silcomo.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que en effet, il n'y a pas vraiment de cadre ou de limite, à part en effet dans ces passages-là. C'est peut-être pour ça que c'est parfois plus agréable à lire. Alors même que les personnages, eux, dans la manière dont ils écrivent dans le roman, se donnent des sortes de petits trucs à faire. Alors ils doivent écrire avec deux textes qu'ils mélangent, et du coup ils font des nouvelles. Et en effet, je reviens à ce que vous disiez, Elisabeth Philippe, il y a un côté agrégat de textes, mais les textes sont magnifiques. Enfin, dans les nouvelles qu'ils créent les uns les autres, il y en a des superbes. En fait, il y a des passages, il y a des grands morceaux de bravoure qui sont presque trop show-off, enfin vraiment trop morceaux de bravoure. Moi, il y a un chapitre que j'ai trouvé absolument magnifique, je crois qu'il est à peu près au milieu, où Anka est seule pour le coup. Alors, j'ai pas compris pourquoi des fois elle est seule, des fois elle est avec Anthony. Bon, ça doit être normal. Donc là, elle est en l'occurrence seule, elle s'arrête dans un motel. Toutes les descriptions d'hôtels, soit dit en passant, sont vraiment très belles. Et elle rencontre une femme qui est une prostituée et qui est en fait une immense déesse noire qui est tout le temps nue et qui dort toute la journée. Donc elle reçoit ses clients, mais en fait, sa solution pour supporter sa condition, c'est de dormir tout le temps. Et la description en quelques pages, parce que du coup, c'est une rencontre assez fugace, comme Anka en fait plusieurs, est absolument sublime. Sauf que ça s'arrête et hop, on repart sur autre chose. Donc on a un peu cette impression de frustration, à la fois d'avoir des beaux objets tout ronds dans un truc pas très clair. Et je suis aussi d'accord avec ce que vous disiez sur le côté adolescent. C'est très étonnant parce que pour moi, c'est vraiment le livre d'un jeune romancier. J'imagine vraiment un premier roman de quelqu'un qui est très romantique. Alors Colm McCann aurait plein de choses à dire. Alors après, j'ai lu ça juste après, je me suis dit,
voilà,
ça lui aurait pas plu. Parce qu'il y a vraiment un romantisme qui est en effet quelque chose de très archaïque, enfin de très primaire presque, qui une naïveté qui moi excuse un peu, je trouve, le propos, sauf qu'en effet c'est pas du tout son premier livre. Alors j'ai pas du tout lu les précédents, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je vais me pencher parce que pour moi c'est vraiment un premier roman.
Alors moi j'avais lu que le Théorème d'Almodovar qui était le premier roman publié en tout cas.
Et ça ressemble à ça ou non?
C'était très luxuriant et très, mais dans mon souvenir, beaucoup plus abouti, enfin qu'il y avait une sorte d'enquête qui était pour le coup véritablement menée, et il y avait quelque chose d'un...
C'est plus proche d'Enrique Villamatas.
Ouais, voilà, ce genre d'enquête... à triple, quadruple fond. Elisabeth Philippe ?
Non, c'est vrai que mon premier propos était assez, assez négatif. Moi, il y a une chose que je trouve assez réussie et pas forcément simple à exécuter pour un écrivain, c'est la façon dont il démolit la figure auctoriale. C'est-à-dire que l'écrivain est rattrapé par ses personnages, parce que ses personnages sont eux-mêmes écrivains. Et c'est vrai qu'il se contente pas de mettre des... C'est pas simplement une mise en abîme de façon très, très simpliste. Le projet finalement du livre, il est, à mon sens, il est contenu dans un paragraphe, page 62, dans lequel il est écrit « Se dégager de la logique temporelle, de la chronologie, que le drame vienne de la juxtaposition des éléments et non d'une construction dramatique, de l'espace, météorite, trou noir, supernova, éthique, ne jamais parler d'un personnage comme on parlerait de son enfant ou de son chien, il nous échappe, il est libre, je ne sais rien. » Et ça, je trouve que la liberté des personnages, extrêmement, je trouve qu'il la met en scène de façon remarquable, et c'est pas évident.
Non, parce que ça le menace, je pense.
Exactement.
En tout cas, il arrive à donner l'impression que il est vraiment lui-même menacé. Le livre est toujours menacé par ses personnages.
Et c'est peut-être
en cas, elle est terrifiante. Oui. Enfin, moi, elle me terrifie comme personnage, vraiment.
Oui, puis il y a vraiment un accouplement presque artistique de ces deux personnages que sont Anthony et Anka, et puisque elle tatoue son sexe sur les murs, et lui qui la recherche au départ pour l'attirer à lui va tatouer tatoué son propre sexe sur le mur. Donc là, on a vraiment... Là aussi, parfois, des symboles sont un peu lourds. Donc, leur rencontre vont naître une myriade de fictions, de récits et ces nouvelles. Bon, il y a toutes ces images, parfois, elles sont aussi un peu lourdes. Mais je trouve que sur cette façon d'envisager les personnages, là, il y a quelque chose d'intéressant. Mais je pense que toute cette luxuriance autour de ce propos-là, ça noie un peu ce qui pourrait d'avoir intéressant et qui, là, pour le coup, à mon sens en tout cas, est un petit peu plus novateur que cette esthétique du chaos, encore une fois, et cette remise en cause de la linéarité où on est quand même en 2018 et c'est plus très très neuf.
Philippe Chevillier ?
Ah oui, je repense à ce que vous disiez sur les passages justement de terriblement le terrorisme, etc., qui sont aussi peut-être des passages écrits aussi, qui pourraient être d'ailleurs, à la limite, l'esthétique du chaos qu'il promet au départ. Enfin, je trouve que le contraste entre les deux, c'est plutôt pas mal, entre ce moment luxuriant et puis ces moments vraiment extrêmes. Je pense que ce qui m'a un peu gêné aussi, c'est en fait toutes les liaisons, c'est-à-dire que le côté road movie finalement. C'est là que quand on les retrouve tout d'un coup, alors ils se retrouvent ou pas, mais quand ils se retrouvent, bon, ils font l'amour. Et c'est là qu'on se retrouve dans des scènes un petit peu, un petit peu convenues, avec un peu avec une forme de lyrisme, un style un petit peu ampoulé. Et c'est pour ça que par moments ça se dilue et qu'il n'y a pas suffisamment de ces chocs entre les histoires qui provoquerait justement ce chaos, quelque chose de plus explosif dans le livre. Néanmoins, plus on en parle, plus je me dis que finalement, après avoir un peu, justement au milieu du livre, m'être dit « Oh là là, j'en ai un peu assez », finalement, c'est vrai que c'est un livre qui imprime quand même.
Oui, absolument. Lucille Comeau, pour finir.
Oui, puis qui ose des choses qui sont en effet des choses qu'on connaît déjà, et d'une certaine manière, je trouve ça assez touchant. Vous parlez des scènes de sexe, moi je les trouve justement pas mal. Il n'y en a pas tant que ça, des scènes de sexe dans la littérature en langue française, franchement, pas tant que ça. Elles sont, moi je trouve, pas mal écrites, notamment les rapports qui se font entre les scènes aussi de nourriture, d'achat, ils mangent tout le temps des pommes, des mangues, évidemment il y a des liens
des
qui
donuts.
Se font entre oui, mais des fruits beaucoup, entre les fruits qu'ils mangent et comment ils les mangent et la manière dont ils font l'amour, je trouve pas ça si neuneux. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, j'allais dire excitant, mais vraiment, parce que je pense qu'il est très sincère dans les descriptions des scènes de sexe. Moi, elles me touchent vraiment. Je les trouve vraiment bien.
Bon. En tout cas, il nous fait parler, il nous fait réagir, il nous fait commenter. On n'a pas parlé des dialogues, qui ne sont pas non plus les choses les plus heureuses, à mon sens, de ce livre-là. C'est une des faiblesses quand même du livre. Il l'utilise assez peu, cette forme-là, dialoguer, mais... je pense qu'il fait bien. Mais restons sur une note positive. En effet, ce livre imprime, a dit Philippe Chevillier. Donc je souscris à cette formule, cette fois. Donc le livre s'appelle « L'arpenteur des ténèbres ». Il est l'œuvre d'Anthony Casasros, dont on n'a pas dit que lui-même était un mystère, parce que c'est un homme reclus, que personne ne connaît, qu'on n'a jamais vu, a une biographie dont on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Qui est-il ? Non mais voilà, ça joue aussi avec ça et ça rajoute quelque chose à la lecture de ce livre publié au Castor Astral. À suivre, dans la dispute, une femme qui ressuscite et des conseils aux jeunes écrivains.
France Culture,
La dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la littérature avec le premier roman de la très jeune Nadia Oswald, née en 1991, intitulé « La femme qui ressuscite », vie d'Anastasia Romanoff, publiée aux nouvelles Attila. Le récit débute par un fait bien réel, la tentative de suicide d'une jeune femme qui s'est jetée à l'eau dans un canal de Berlin en février 1920. Elle va prétendre ensuite être la grande duchesse Anastasia Nikolaïevna de Russie, qui aurait, selon elle, donc réchappé à l'exécution de toute la famille impériale par les bolcheviks le 17 juillet 1918.
Thank you.
Février 1920, l'endroit de paix, depuis le bord du pont où la main du saule pleureur touche le canal de ses doigts fins contre le couloir d'eau. Le Landwehrkanal, loin de la calmer, se saisit du doute, le brouille, comme l'eau qui se tourne dans le tourment invisible, une vacillation. Elle s'accroche à l'évidence de Berlin qui lui, au jour, sans histoire. Elle s'anime et rien ne se passe que l'eau qui fait des ombres. Ses yeux se tournent vers le détail, vers la croisée du creux et de l'air, entre les souffles. Puis elle fait un pas pour éviter le destin et ne pas descendre dans la plongée. Seulement, à le regarder, le pont invoque la forêt. Il étend son bras d'homme ancien et sa courbe lui remémore la passerelle sur le ruisseau et par cela l'enfance. L'eau n'est qu'une étendue de terre où s'enfuir, comme à Borovilas, quand tous les corps étaient penchés avec le même arrondi que le Bendlerbrücke à la moisson. Les mains apparaissent dans le mouvement de fauche du saule tendu vers l'eau. Elle voit les femmes, fichues sur la tête, cassées comme des créatures, des glaneuses. Elle restait seule, se dérobait, refusait à la tâche la vigueur de son corps, la gardait pour elle comme une petite bestiole des champs. Sa paresse gagnait toujours dans l'ombre du champ sans ombre. Ne pas s'écraser contre le sol, comme le plan abattu, puis germer, puis s'écraser à nouveau, froisser sous les rayons, ranger le blé dans le pli du tablier, à ce blé murmurer quelques mots comme à un être vivant, à ce blé qui nourrit et épuise les formes de chair humaine. Ce sont les deux premières pages, ou presque, de ce livre de Nadia Oswald, La femme qui ressuscite, vie d'Anastasia Romanoff, roman, au Nouvel Attila, et choix simple de lecture que de prendre l'ouverture, mais surtout, c'était important, Elisabeth Philippe, d'essayer de faire entendre l'écriture de Nadia Oswald, ce que j'ai fait pas très correctement, mais enfin bon, elle m'excusera.
Oui, oui, une écriture effectivement très, très étrange, tout en contorsion. Alors, j'avoue qu'au départ, moi, ce qui m'a attiré, c'est ce sous-titre « Vie d'Anastasia Romanoff ». Je dois confesser une fascination très lointaine pour l'histoire de la famille impériale et les Romanoff. Et le personnage d'Anastasia, enfin, la personne d'Anastasia, à cause de cette légende, effectivement, selon laquelle elle aurait survécu au massacre, enfin l'exécution. Et je ne connaissais pas précisément l'histoire d'Anna Anderson. Je savais que certaines femmes, au moins deux, trois, avaient prétendu être la grande duchesse Anastasia. Et Anna Anderson fut la première, puisque dès 1920, elle va donc monter. C'est pas aussi simple que ça. En tout cas, se faire passer pour Anastasia. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est tout d'abord la façon dont Nadia Oswald restitue cette histoire. Donc c'est une histoire vraie qui repose intégralement sur une mystification, sur l'illusion. Et elle aurait pu se contenter finalement de restituer les faits tels quels. L'histoire est suffisamment fascinante et romanesque et rocambolesque pour se donner telle quelle finalement et procurer un plaisir simplement pour satisfaire notre curiosité, puisque les faits sont quand même extrêmement étonnants, puisque cette mystification va durer pendant plusieurs années. Elle commence dans un asile dans lequel échoue cette jeune femme, Anna Anderson, qui ne s'appelle pas Anna Anderson, et c'est sa voisine de chambre qui a travaillé à la cour impériale en Russie, qui croit reconnaître en elle l'une des grandes duchesses. Et finalement, cette jeune femme, donc cette rescapée de la noyade, va épouser cette situation et va construire ce personnage qu'on lui désigne. Et c'est toute la création de ce personnage que décrit finalement Nadia Oswald. Et j'étais très sensible effectivement à cette écriture dont vous avez rendu compte en lisant ces premières pages, Arnaud. Donc, comme je disais, une écriture assez déroutante. Je parlais de contorsion. Alors, est-ce que c'est dû au bilinguisme de l'auteur, puisque j'ai lu qu'elle parlait aussi bien anglais que français. Mais c'est vrai que par moment, on a l'impression que l'ordre des mots nous déconcerte un tout petit peu. C'est pas le sujet verbe complément habituel. C'est assez heurté. Mais ça épouse finalement la psyché assez méandreuse et erratique du personnage d'Anna Anderson, dont on ne sait pas vraiment si elle est aliénée, sous emprise, ou si elle est une mystificatrice un peu cynique. Et il y a toujours, je trouve, vous l'avez lu, on est dans un élément liquide, il y a quelque chose de labile, de très mouvant, exactement comme l'identité de cette femme qui, au fil de l'histoire, va prendre plusieurs noms. Elle est d'abord la Fraulein Unbekannt, cette inconnue retrouvée dans le Landwehrkanal. Elle va devenir Anna Tchaïkovski, parce que quand quand elle essaye de rentrer dans ce personnage de grande duchesse russe, elle ne connaît qu'un nom russe, c'est Tchaïkovski, donc elle s'appelle Anna Tchaïkovski. C'est vraiment tout cela est vrai, et pourtant, je trouve que ce qui est fascinant, et on a beau savoir qu'effectivement elle n'était pas Anastasia, puisque ça a été prouvé en 2008, on a beau savoir tout ça, connaître l'histoire, et bien je trouve que le trouble et le mystère demeurent grâce à la langue essentiellement à la langue de Nadia Oswald, et puis à cette construction par fragments, une sorte de miroir brisé, d'éclat. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très, très maîtrisé pour un premier roman.
Philippe Chevillier, est-ce que vous êtes fan de la famille impériale russe?
J'ai bien aimé ce livre, mais ça a été aussi lent au démarrage. Alors, je vais être assez paradoxal parce que au début, justement, j'étais dérouté et je trouvais que le style était trop alambiqué, maniéré, et je me disais, au fond, est-ce que c'est pas une façon, en ayant eu cette idée, géniale de raconter cette histoire rocambolesque, de s'écarter justement de ce qui pourrait être un roman historique ou un roman de gare, en lui donnant une densité par une forme de littérature, mais un peu appliquée, un peu bon. Et puis, c'est petit à petit que le livre m'a un peu imprégné. Vous parliez de liquide, ouais, une espèce de brume dans laquelle évoluent les personnages. Alors, principalement, elle, qui finalement n'est jamais vraiment elle-même, ni jamais vraiment Anastasia, qui est plutôt une idée de qu'elle se fait d'Anastasia, ou une idée qu'elle se fait d'elle-même, qui est en plus une icône passive et parfois captive, parce que par moments elle veut s'échapper. Donc je trouve qu'effectivement la façon dont le personnage est construit est très fort. Et puis derrière, il y a cette traversée du siècle avec des fantômes, ceux de la vieille Russie, qui sont là et qui veulent, alors qui sont dans l'espoir de peut-être de rebâtir un empire avec les anciens, avec les Russes blancs, un problème aussi de finances, de se dire on va peut-être toucher l'héritage parce qu'il y a aussi ça derrière, mais tout ça est dans une brume. Et j'aime beaucoup aussi la description de ces châteaux, de ces chambres où il y a ses souvenirs, et donc petit à petit ce livre m'a séduit. Et surtout, alors j'ai beaucoup aimé cette fin totalement invraisemblable, parce qu'elle part aux États-Unis et puis elle revient en Allemagne. Elle se retrouve dans un petit chalet où on vient la visiter, et ça devient comme un conte de fées, mais un peu sinistre et un peu cette fin est totalement étrange aussi. Donc il y a une étrangeté, mais moi je pense qu'il y a des défauts de jeunesse aussi dans l'écriture, et voilà. Donc c'est un livre qui m'a bien plu, mais avec beaucoup de défauts, je pense.
Lucille Gomeau sur La femme qui ressuscite.
Oui, je suis assez d'accord avec Philippe. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, à tel point que je crois que les quelques premières pages, je les ai lues au moins 4 ou 5 fois, parce que j'arrivais même pas à comprendre. Enfin, quand on regarde, quand on analyse une phrase, par exemple, la déconstruction, elle se situe vraiment au niveau des pronoms. C'est assez spectaculaire. Et quand on le fait de manière régulière, on voit un petit peu les trucs de cette écriture qui, en effet, est peut-être trop sophistiquée. En fait, on comprend très vite que on a besoin d'une écriture un peu flottante pour décrire ce personnage qui n'en est pas vraiment un, qui a de multiples identités. Et c'est pas la peine, en fait, je pense, de sophistiquer à ce point-là le style pour le dire. Moi, voilà. Sinon, je suis d'accord que... Mais d'ailleurs, alors, est-ce que c'est moi qui me suis habituée au style, ou est-ce que c'est un effet du livre? J'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Oui. Et que vers la moitié, il faut quand même attendre un peu. Je pense le goût du récit, et en effet, ce goût qu'on recherche quand on écrit, je pense, sur Anastasia Romanoff, prend le pas, et l'intrigue, enfin, le plaisir de raconter l'histoire de cette affabulatrice prend le pas sur le style, et c'est assez agréable. Moi, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est ce que vous décriviez, Philippe, c'est que c'est un personnage trou noir, en fait, qui attire en tournoyant des tas de personnages rocambolesques en eux-mêmes, et la manière dont se dessine cet esprit des années 20, des années 30, avec cette aristocratie qui est complètement éclatée. Elle est éclatée géographiquement, parce qu'en effet, on se retrouve en Bavière, en Pologne, à Berlin, et puis aux États-Unis après, puis à nouveau en Allemagne. Elle est aussi éclatée d'un point de vue des valeurs. J'aime beaucoup le passage aux États-Unis dans le Long Island de Gatsby, en fait. Il y a des descriptions de fêtes qui sont vraiment très très inspirées de Gatsby, où se retrouve du coup cette fausse Anastasia. C'est vraiment un moment de flottement, et ça, je trouve qu'elle le rend parfaitement, un moment de fantasme et aussi de fantastique, parce que dans cette brume dont vous parlez, Philippe, il y a quelque chose vraiment de la brume un peu mystificatrice. Il y a des personnages de prophètes qui apparaissent, qui sont connus. Bon, il y a Rasputin, évidemment. Il y a aussi un prophète qui s'appelle Anusen, qui est un homme de cabaret, qui vient pour essayer de voir si c'est la vraie ou la fausse qui est payée par cette aristocratie russe. Tout ça est extrêmement bien fait. Mais ça met du temps. Et je pense, en effet, oui, il y a quelque chose de la jeunesse d'une écriture qui se forge et qui est peut-être trop revenue sur elle-même et se fait pas assez confiance dans tout simplement le récit, quoi, le sens du récit.
Alors, c'est vrai que moi, ces premières pages difficiles à lire, dans les faits, à haute voix, parce que on a du mal à retomber sur le sens de la phrase, dans l'intonation, enfin bref. Mais moi, je suis à deux doigts de trouver ça formidable, mais à deux doigts, parce que on aime bien, si on aime les livres, tous autour de cette table, c'est le cas, on aime bien les gens qui cherchent à creuser d'autres galeries dans la langue pour la faire sonner autrement, et je trouve qu'elle s'en approche beaucoup, et en tout cas, c'est une tentative qui m'intéresse pour elle-même. Mais j'aurais effectivement préféré que ce style qui évolue quand même au fil des pages reste à la fois dans la recherche, mais en même temps sans tomber dans les travers du début. Donc je suis un peu encore une fois entre deux sur cette lecture-là. Intéressé, pas absolument passionné par la famille impériale, mais du coup je me suis plongé un peu sur cette histoire. J'ai regardé les différents récits qui avaient pu être faits sur la vraie fausse mort d'Anastasia, qui a l'air d'avoir été achevée à coups de baïonnette. Enfin, ça a l'air absolument épouvantable, parce que les enfants n'étaient pas morts au premier coup de feu. Donc analyse finalement ADN 2007-2008, je parle sous le contrôle de l'experte Elisabeth Philippe. On a vraiment retrouvé les dépouilles de tous les membres de la famille impériale. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais oui, il y a cet homme de cabaret. Mais il y a aussi ce moment où elle se prend en photo la formule, c'est se retrouve piégée entre deux miroirs. Et c'est une bête de foire, surtout quand c'est l'histoire d'un livre où chacun projette la femme qui se suicide en se jetant dans un canal gelé. C'est déjà une première bête de foire. Puis ça va être peut-être la survivante de la famille impériale, puis ça va être, pourquoi pas, à la fin terrible. C'est ça, on vient voir la femme à barbe, enfin, il y a quelque chose comme ça assez terrible. Donc ça, cette dimension-là, je la trouvais absolument passionnante aussi sur un récit assez glaçant, ce qui est normal vu comment ça commence, de cette pauvre femme. Elisabeth Philippe ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que les premières pages... je voudrais pas modérer mon enthousiasme, mais parce que le reste, la suite m'a fait un peu oublier cette difficulté de lecture initiale. C'est effectivement un côté assez alambiqué, mais je trouve que c'est compensé, rattrapé par... Ça s'allège d'abord,
je crois qu'on
est tous d'accord sur ce point.
Un peu trop.
Ne faites pas le difficile. Et je trouve qu'il y a certaines images, certaines... Oui, par exemple, quand elle parle du fait qu'Anna Anderson est devenue le reliquaire vivant de la grande duchesse, tout ça constitue un univers un peu décadent, un peu symboliste. J'ai aussi pensé à Bruges la Morte, ces univers, encore une fois, très liquides, brumeux, fantomatiques, hantés. On est vraiment dans ce fantasme pur, d'où le côté un peu nébuleux aussi du texte. Parfois trop, je vous l'accorde. Mais derrière tout ça, il y a aussi peut-être... Puisque Anna Anderson fabrique un personnage, d'ailleurs Nadia Oswald montre comment Anna Anderson va essayer de capter les bons gestes pour servir le thé, travailler sa façon de parler, sa diction, son attitude. Donc on a vraiment un personnage en train de se construire. Et elle-même est l'écrivain qui construit ce personnage en train de se construire. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du mythe de Galatée dans ce livre. Et finalement ce côté morcelé, très fragile, parfois au bord de la rupture de ces phrases, je trouve, colle assez bien à la personne qu'elle décrit, à ce personnage d'Anna Anderson, qui elle aussi est toujours prête de se briser. À un moment, il y a une comparaison, je crois, avec un bibelot. Finalement, cette pauvre Anna Anderson, ou en tout cas la résurrection d'Anastasia, n'est qu'un petit bibelot auquel se raccrochent tous ces émigrés russes qui voudraient inverser la révolution. Et je trouve ça très juste. Elle fait allusion aussi aux œufs de Fabergé. Oui, on est face à un objet assez précieux et fragile, je trouve, avec ce livre.
D'accord, Lucille Comeau ?
Oui, et c'est à la fois la construction du personnage qui se joue comme en abîme dans le livre, mais aussi le besoin de fiction, parce qu'en effet, tous ces personnages qui sont autour d'elle et qui, en fait, la transforment plus qu'elle ne se transforme elle-même, parce qu'elle est quand même dans une attitude assez passive, finalement, face à cette identification. C'est vraiment un besoin absolu dans cette période troublée de transition de fiction. Et ça, pour le coup, je trouve que ça renvoie le lecteur à quelque chose d'assez à la fois poignant et un peu désespérant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez triste, en fait, dans le livre, et qui va au-delà de juste l'histoire d'Anastasia, qui va vraiment sur un terrain presque philosophique, en tout cas esthétique, de la question de fiction et de à quel point on en a besoin dans des moments de crise, et à quel point c'est pas simple, et les sacrifices qu'on est prêt à faire, et y compris humains, pour avoir ce type de satisfaction-là. Ça, c'est quelque chose qui pointe à la fin du livre et qui laisse assez désespéré quand même.
Dernier mot, Philippe Chevillier.
Oui, ce qui finalement la force du livre qui s'appelle La femme qui ressuscite, c'est qu'à la fin, Anastasia, on se dit elle existe parce qu'il y a eu cette femme qui l'a remplacée. Elle est devenue un personnage romantique, un personnage de rocambolesque, et Nadia Oswald réussit à nous la ressusciter. Encore une fois, je pense à cette scène de la fin dans le petit chalet, ce conte de fées à l'envers. On a l'impression que là, elle sait justement qu'elle a plus, que l'écriture glisse et va toute seule, parce que elle est arrivée au bout, elle est arrivée à réinventer le personnage d'Anastasia ou d'Anna, on ne sait pas très bien. Voilà, laissez.
Mais c'est La femme qui ressuscite.
C'est La femme qui ressuscite.
De Nadia Oswald aux Nouvelles Attila.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième livre au sommaire de cette dispute littéraire, c'est un manuel, hein, c'est l'œuvre de l'auteur irlandais Colm McCann, et s'intitule « Lettres à un jeune auteur », publié chez Belfond dans une traduction de Jean-Luc Piningre. Parmi ces lettres à un jeune auteur, celle-ci, qui s'intitule « Il n'y a pas de règles », qui s'ouvre par cette citation de Somerset Maugham, « Il y a trois règles à respecter pour écrire un roman. Malheureusement, personne ne les connaît. » Le texte de Colm McCann s'ouvre ainsi cette lettre. « Il n'y a pas de règles, ou si elles existent, elles ne sont faites que pour être transgressées. Assume la contradiction. Tu dois être prêt à tenir en ta paume deux idées opposées, ou davantage, au même instant exactement. » Au diable la grammaire, à condition de la connaître. Au diable les convenances, à condition que tu aies appris ce qu'elles signifient. Au diable les intrigues, mais il vaudrait mieux que, à un moment ou à un autre, tu fasses se produire quelque chose. Au diable la structure, mais il faut que tu y aies pensé assez sérieusement pour pouvoir te repérer les yeux fermés dans ton travail. Les grands font exprès d'enfreindre les règles afin de réinventer la langue. Ils l'utilisent comme personne avant eux, et puis la renverse, la déstructure, et transgresse sans cesse leurs propres règles. Pars donc à l'aventure en suivant ce chemin-là, peut-être créeras-tu les tiennes. Voilà l'une des très nombreuses lettres que Colm McCann adresse à un jeune auteur, publié chez Belfond, et c'est Philippe Chevillier qui commence à nous en parler.
Oui, il y a une cinquantaine de lettres à un jeune auteur. J'étais un peu embarrassé au début parce que je me suis dit peut-être que ce livre est mineur dans la mesure où moi j'aime bien le romancier, j'aime bien quand il écrit sur Nouraïev sans avoir vu de ballet de sa vie, quand il écrit sur les Roms et sur The Lee, c'était de très beaux livres. Moi, tous les romans m'ont plu. Et je me suis dit, mais bon, c'est vrai que c'est joliment écrit. D'ailleurs, le prologue, il a un style. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va pas tourner en rond? Et alors, moi, j'ai trouvé ça à la fois très intéressant et très touchant. Parce que d'abord, il y a un point de départ assez humble de dire, bon, vous avez cité Somerset Maugham, mais il y a aussi Rilke, puisqu'évidemment, on pense aux lettres à un jeune poète, où c'est le point de départ, hein, où il nous dit, personne ne peut vous apporter un conseil, personne. Et du coup, il prend quand même ses précautions pour justement se dégager de l'image qu'a pu avoir un écrivain anglo-saxon par rapport à des étudiants qui va leur donner des cadres très précis. Et alors, ce qui est très fascinant, en fait, dans ces lettres, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont de mais extrêmement concrètes. C'est-à-dire, à la fois jusqu'à la ponctuation, jusqu'à la façon de se comporter en public pour un écrivain, pour un jeune écrivain, lui dit, fais pas le con. Et puis en même temps, il lui dit, bon, sois pas trop gentil non plus. Des petites choses comme avoir un carnet sur soi ou où est-ce qu'on écrit. Donc, il y a toute cette dimension qui est vraiment très pratique et qui est assez intéressante. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est un appel à l'âme, à l'esprit qui prévoit à l'écriture, cette notion d'urgence, de sortir des sentiers battus, de pas essayer de faire des choses attendues, d'éviter aussi le nombrilisme. Alors, c'est une réflexion intéressante sur l'autofiction. Et il y a une lettre intéressante où il évoque ça, où il dit, au fond, quand on parle un petit peu trop de soi, on peut aussi blesser ses proches, on peut blesser les autres. Et de dire, au fond, ce qui est plus intéressant, c'est pas de parler de soi, mais d'essayer d'aller voir ailleurs, d'essayer de connaître ce qu'il y a ailleurs. Et puis, il y a cet appel aussi à l'exigence que je trouve intéressant, c'est-à-dire au travail, pas avoir peur de la page blanche, de se remettre sur l'ouvrage, de s'isoler chaque mot. Il dit c'est aussi important d'écrire un mot. Un mot est aussi important dans un texte de prose, dans un roman, que dans une poésie. Et puis alors évidemment c'est son propre credo quoi, puisque quand il parle d'entendre la musique humaine, quelque part aussi, on peut penser que c'est un romancier qui aime les intrigues, mais il dit faut quand même préférer la langue à l'intrigue. Je trouve que il y a vraiment beaucoup de, à la fois de sincérité et puis de choses justes qu'il dit, qui pourraient être considérées comme banales s'il en lâchait une comme ça, mais toutes ensemble, ça fait un joli petit florilège qui peut être intéressant pour un jeune auteur.
Lucille Comeau, dont le premier roman paraîtra... Non, pardon.
Vraiment, je pense.
Mais ce sera sous pseudonyme, j'ai sûr.
Lucille. Alors moi, c'est vraiment un livre qui me confronte à une vision que j'ai qui est très française et sûrement un peu encore scolaire de la littérature. Et dans un premier temps, qui me gêne. Hein, donc forcément, puisque c'est vraiment quelque chose de très anglo-saxon dans la manière de voir la manière dont on écrit. Donc c'est voilà, très, très, très sommairement. On n'est pas du tout dans la théorie de l'inspiration, ni dans les arcanes divines où on écrit en créant. Voilà. Là, on est vraiment en effet à sa table avec son crayon et sa feuille.
D'ailleurs, il faut venir tous les jours à sa table.
Feuille, hein. Voilà. Et il imprime une feuille sur la... Parce qu'il est assez drôle d'ailleurs, dans le livre, une feuille blanche avec des lignes, vraiment comme une invitation quasiment à commencer. Et oui, en effet, dans ce passage sur la terreur de la page blanche, il dit vraiment, il faut s'asseoir. C'est vraiment un moment... où vraiment on sent le côté extrêmement anglo-saxon et enfin même américain, je sais qu'il est irlandais, mais bon.
Mais il vit aux États-Unis depuis longtemps. Ouais.
Voilà. Tu dois être à l'heure au travail, t'asseoir et repousser le vide, reste à ton bureau, ne quitte pas la pièce, ne t'occupe pas des factures. Je continue, ne te laisse divertir d'aucune manière avant d'avoir le sentiment d'avoir vraiment essayé, de t'être vraiment battu. On est quasiment dans un vocabulaire de Wall Street, quoi, de trader, voilà. Donc bon, ça j'avoue que ça me gêne un peu. Le côté aussi un peu compilation de citations d'écrivains qui parlent de leur métier est pas toujours très heureux parce que, à mon avis, il détourne vraiment des citations de grands qui n'ont pas du tout la même vision de la littérature que lui. Je pense à la citation de Beckett qui est extrêmement connue, essayer plus mal encore, faire pire, voilà, de cap au pire, qui n'est pas du tout quelque chose de métalinguistique. Enfin, pour Beckett, il ne s'agit pas du tout, je crois, de décrire sa pratique, au contraire même.
Moi, j'ai pire comme citation sous les yeux, je la donnerai tout à l'heure.
Voilà, il y a des choses qui ne sont pas toujours très très heureuse. Ceci étant dit, dans le côté justement très américain, il y a des choses qui m'intéressent. On voit à quel point le cinéma, par exemple, a une importance pour lui dans l'écriture. Il parle beaucoup quand il parle de la question du point de vue, c'est évident pour lui que c'est une question cinématographique avec la caméra, où on place la caméra dans la maison du livre. Il y a aussi cette métaphore de la maison. Ça m'a beaucoup fait penser aussi à un entretien, alors ça n'a a priori rien à voir, mais en fait si, que j'avais lu de Matthew McConaughey, acteur hollywoodien, qui expliquait comment il travaillait ses personnages, et il expliquait que chaque personnage, aussi mineur qu'il soit, il pouvait écrire jusqu'à 30-40 pages sur son passé, sur en effet comment il se lave les dents, ce qu'il aime manger le matin, ce que décrit très bien Colm McCann dans son livre, à quel point on doit travailler ses personnages jusqu'à épuiser tous les recoins de leur conscience, de leur quotidien, etc. Ça, pour le coup, ça m'intéresse parce que je vois en effet comment ça peut fabriquer des bons romans anglo-saxons. Et alors du coup, paradoxalement, tout ce qui sort un peu de ce pragmatisme-là, parce qu'il y a quand même quelques embardés un peu romantiques sur la mission de la littérature, m'ennuie un peu, parce que je trouve que justement, à la limite, tant qu'à être dans le manuel, autant faire un manuel, c'est plutôt drôle. Et voilà, c'est le mot, mon dernier mot, c'est vraiment très drôle quand même. Il est extrêmement sympathique, il réussit à construire un narrateur-écrivain chaperon qui est, encore une fois, il y a quelque chose de très anglo-saxon dans l'humour et très américain. Le fameux chapitre « Ne fais pas le con », moi, m'a fait rire, vraiment. Et c'est drôle parce que dans cet humour-là, dans cette empathie, j'ai retrouvé un sourire qui est vraiment très très loin en même temps dans la démarche, mais qui est celui d'Olivier Cadiot, dont on a parlé il y a peu de l'histoire de la littérature, qui se présente pas comme ça, mais qui dans l'idée est aussi une sorte de manuel pour écrire de la littérature, et qui fonctionne aussi par adresse et aussi par texte court, et dans lequel, même si la démarche est extrêmement différente et le style n'a rien à voir, il y a cette empathie, ce sourire dans l'écriture que j'apprécie beaucoup.
Ouais, voilà. Quelque chose de bienveillant.
Exactement.
Ce qui est quand même pas si fréquent. Elisabeth Philippe.
J'avais les mêmes préventions que Lucille, c'est-à-dire que j'ai aussi une sorte de défiance face à cette approche
Prévention
très
de la cagneuse.
Certainement, ça laisse des marques. Non, cette approche très pragmatique et typiquement anglo-saxonne, et puis c'est une vraie tradition. Je pense aux 10 conseils pour des jeunes auteurs d'Hemingway, par exemple, qui sont assez savoureux. Je crois que c'est soyez amoureux, crevez-vous à écrire, fréquentez les écrivains du bâtiment. Bon, il y en a évidemment beaucoup d'autres. J'avoue que quand Colum McCann écrit qu'il faut, ce que vous disiez Lucille, penser à son personnage et lui imaginer son passé, ses vêtements, ce qu'il mange au petit déjeuner, il parle de la tranche de bacon littéraire. Je trouvais pas ça très heureux comme image, donc c'est toujours compliqué en plus parce qu'on est en train de lire un livre que je trouve pas forcément toujours très agréable à la lecture, je trouve qu'il y a des métaphores un peu qui laissent un peu à désirer, donc... Et bien sûr, il est très modeste et il y a cette bienveillance et il est plutôt sympathique dans ce qu'il écrit, mais c'est toujours un peu compliqué de dire je vais quand même te donner des conseils pour écrire et de pas vraiment construire des phrases très très convaincantes. Enfin, moi, je me suis retrouvée parfois un peu face à ça. Donc, voilà, par moments j'ai ri aussi parce qu'effectivement il y a cet humour. Je trouve et encore une fois on est vraiment dans une approche très anglo-saxonne puisqu'il y a ce passage, je crois, où il donne des conseils pour trouver un éditeur où il faut connaître le pool d'auteurs de cet éditeur. Et puis il fait une longue digression sur je sais plus comment il appelle ça dans le livre, mais en anglais on appelle ça les blurbs, donc ces petits mots élogieux qu'on demande à d'autres écrivains. Et il fait allusion à Gary Steingart, cet écrivain américain qui est devenu un spécialiste. C'est devenu une blague parmi les écrivains, c'est le recordman des blurbs, donc de ces petits mots élogieux. Et il y a ce genre de petites plaisanteries. Je pense que Colum McCann est un admirateur immense de Joyce. Et il y a juste une page, un moment parmi les conseils, c'est Joy, lis Joyce, réjouis-toi, lis Joyce. Bon, ça, je trouve, avec la petite photo de James Joyce, je trouvais ça amusant. Mais au-delà de ça, je me dis, mais quelle est exactement la vision de la littérature que défend Colum McCann ?
Est-ce que je peux vous proposer une réponse?
Bien sûr.
Qui pose problème. J'avais noté aussi les quatrièmes de couverture ou l'art de la pornographie littéraire, qui était le titre de la lettre où il parle de Gary Steinberg. Il y en a une qui s'appelle Bienvenue aux critiques, mais le titre est en fait assez faux par rapport au contenu. Mais qu'est-ce que c'est que la littérature? Notamment pour Colum McCann, il y a une lettre qui s'appelle La littérature est un divertissement. Alors, ce que problématique. N'oublie jamais qu'écrire, c'est distraire. Oui, ton devoir est de dépeindre le monde, mais aussi de lui apporter un peu de brillance. Bon, c'est une lettre assez courte. Et là, il y a une citation de David Foster Wallace qui dit « Dans les heures les plus sombres, la définition d'une œuvre de qualité est celle qui circonscrit et ranime, au bouche à bouche, ses besoins, ce qu'il reste d'humain, de magique, de rayonnant, en dépit de l'obscurité. » Et là, c'est vraiment le cas typique, ce que vous dénonciez, Lucille Gaumont, la citation qui... un contresens.
Sur le divertissement cité de David Foster Wallace, voilà. C'est quand même fortiche.
Et puis bon, dire la littérature est un divertissement, on peut quand même sérieusement questionner cette assertion.
Mais moi je crois que c'est ça qui m'a gênée, c'est ce côté un peu limité, un peu réducteur de la littérature qu'il semble défendre. Déjà tout ce passage effectivement où il ne condamne pas parce que c'est jamais très violent, ça reste quand même très gentil.
Oui.
Vraiment dans une bienveillance, c'est très gentil. Mais... sur l'autofiction, enfin sur le fait de parler de soi, je trouve que c'est des arguments qui sont quand même très très légers. Ça va pas très très loin.
Non.
Donc je trouve ça un petit peu gênant. Et je me dis, quand on repense à l'art du roman de Kundera ou à des textes comme Écrire de Duras pour les Durassiens, on est quand même à un autre niveau.
Il y a quand même plus la bibliothèque verte.
Oui, il n'y a pas d'éthique de la littérature, il n'y a pas vraiment non plus de parti pris esthétique.
Allez, un petit bon défense de Philippe Chevillier,
oui,
j'ai l'impression.
D'abord, encore une fois, je pense que, d'ailleurs lui-même le dit dès le départ, ça ne se veut pas être l'œuvre fondamentale pour expliquer la littérature. Ce sont des choses extrêmement concrètes et moi je trouve ça assez amusant parce que vous prenez vraiment tous les côtés les plus justement... mais il y a des passages dans le livre, grosso modo ce qu'il prend comme point de départ, c'est l'idée qu'il s'adresse à des gens qui ont le feu et et il leur dit d'aller vers le feu et de se brûler. Moi, je peux vous en sortir plein des passages où il dit un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs au départ, il le sous-entend. C'est assez contradictoire. Et c'est un écrivain d'ailleurs qui est assez ambivalent. Mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ses livres, où il y a un côté, il y a des intrigues qui sont formidables, mais en même temps, il dit qu'il préfère la langue et parfois il y a des fulgurances de langue. Donc c'est vraiment à son image, mais il ne faut pas le prendre comme un manifeste. Ça, c'est sûr.
Écoute, on écoutera Colm McCann qui sera l'invité de la Grande Table ce jeudi sur France Culture pour parler évidemment de ses lettres à un jeune auteur publié chez Belfonds et dans une traduction de Jean-Luc Piningre. Et avant de conclure tout à fait l'émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Camille André nous a rejoint pour nous rappeler tout d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
On se demandait hier quel était le premier film réalisé par Samuel Collardet et il s'agit de L'Apprenti.
Très beau film et on parlera demain de Une année polaire, son film qui est sorti hier en salle. Ce soir, on fait gagner des invitations pour une exposition au bal. Toujours bien les expositions au bal. L'exposition s'appelle Radial Grammar, c'est l'artiste suisse Batia Sutter. Quelle est la question ?
Eh bien, quel ouvrage de Batia Sutter contient uniquement des images extraites d'autres livres collectés par l'artiste elle-même au fil du temps ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Puis tant que vous y êtes sur cette page, abonnez-vous au podcast de l'émission. Ce sera aussi simple pour pouvoir l'écouter autrement. Demain à 19h, nous serons en direct en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio pour une dispute consacrée au cinéma. Je serai en compagnie de Corinne Rondeau, Antoine Guillot et Thierry Chaise à notre affiche Une année polaire, donc le film de Samuel Collardet, Les rives du destin d'Abdelrezzar Kahani, qui est sorti également hier, et nous parlerons de l'exposition de Chris Marker, Les sept vies d'un cinéaste à la Cinémathèque française.